Vous êtes bien sur RDWAR 101.7 ou 107.5 FM et tout de suite, ennaturez-vous.
Ennaturez-vous ? Ennaturons-nous ? Ennaturez-moi.
Ennaturez-vous avec Liliane. Bonjour Liliane.
Bonjour Marion.
Aujourd'hui, tu es venue nous parler du plantain.
Eh oui, le plantain, c'est une petite herbe qu'on dit mauvaise. Hein, elle fait partie des mauvaises herbes. Et pourtant, c'est une petite plante qui a fait pas mal de choses dans l'histoire. C'est une petite plante qu'on a l'habitude de piétiner, qu'on trouve au bord des chemins, hein, souvent. On piétine carrément dessus, on la voit. On la voit dans les lieux incultes, malheureusement dans nos salades quand on veut faire une petite plate-bande et puis pof, on a ça au beau milieu. Et pourtant, elle a une jolie petite floraison, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, elle fait une espèce de petite couronne de fleurs là autour, toute petite, blanche ou rose selon les plantains. Il y en a plusieurs, il y en a surtout deux qu'on connaît bien ici. Elle a une qui a des feuilles toutes rondes et l'autre des feuilles bien allongées. On appelle ça les lancéolées, parce que c'est une forme de lance avec des nervures très en relief. En fait, chez nous, on en connaît surtout deux, mais il y en a plus de 200 espèces à travers le monde. C'est pour dire que des plantains, il y en a. Les Amérindiens l'appelaient « pied de l'homme blanc ». Parce qu'en fait, elle serait arrivée en Amérique, les petites graines collées aux semelles des Anglais, des Français qui ont conquis l'Amérique. Et donc, ces petites graines ont semé, évidemment, se sont implantées. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient appelé ça le pied de l'homme blanc. Il y a aussi une autre façon de l'appeler, c'est plante des pieds. Encore une fois, par référence à la forme des feuilles de certaines espèces. Alors, c'est une plante aussi qui est réputée comme beaucoup, dans la médecine traditionnelle. Avant, on n'avait pas l'aspirine en sachet, on avait des plantes. Des traces de son utilisation apparaissent dès la Grèce antique, pour dire déjà. Le nom latin, donc le plantago, signifierait « plante qui agit ». Et non pas plante des pieds, mais plante qui agit, par allusion donc aux propriétés médicinales que les Romains lui attribuaient. Dans diverses langues, les noms font allusion à ses vertus médicinales, d'ailleurs on le retrouve. Pline déjà lui attribuait le mérite de soigner 24 maladies. 24. Il paraîtrait même que le plantain entrait dans la composition de la fameuse potion magique des druides. On ne saura jamais ce qu'il y avait vraiment dedans. Au Moyen-Âge, saint Hildegarde le conseillait pour ses vertus cicatrisantes et expectorantes. Alors, actuellement, qu'est-ce que ça soigne au juste ? En France, Plantago psyllium, pour l'appeler par son nom, cette graine légèrement laxative, elles sont vendues en pharmacie encore. Le Plantago major, grand ou majeur, le plus fréquemment employé. Bien le Plantago média, le moyen, voilà. Le plantago lancéolata, dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette grande plante lancéolée, auquel on attribue les mêmes propriétés médicinales. Par voie interne aussi, excellent purificateur du sang, des poumons, de l'estomac, je ne vais pas vous faire un grand cours de médecine quand même. Ça soigne aussi l'hémophilie, la diarrhée, la dysenterie, les retards dans le développement chez l'enfant, la tuberculose, les bronchites chroniques, la pharyngite, la laryngite, les méphrites, etc., etc. Les graines aussi ont été employées avec succès dans les hémorragies utérines et celles du poumon. Vous voyez que c'est vraiment une plante qui a été extrêmement employée. Les Chinois déjà les considéraient comme un symbole de fertilité. Malheureusement, ils ont beaucoup de choses comme ça. Et croyaient que leur cueillette favorisait les grossesses. On dit aussi qu'ils s'en servaient avec de la graine de lin pour soigner la baisse de pouvoir sexuel chez l'homme. Je n'ai pas vérifié. En usage externe, conjonctivite, l'inflammation des paupières, les plaies, coupures, ulcères de jambes, gingivite, dartre, dermatose croûteuse, perte blanche, etc., etc. Les morsures de vipères et les piqûres d'insectes. Piqûres d'abeilles, de guêpes, partants rageux, de mouches domestiques. Et puis là, je vais vous raconter une petite histoire, parce qu'effectivement, le plantain est très intéressant quand vous vous piquez, soit par un insecte, soit par d'autres plantes. À un moment donné, j'ai fait un petit voyage en voiture avec des amis, nous étions quatre dans la voiture, et le chauffeur était un jeune homme qui venait du Nord, qui était blond, avec une peau bien blanche et bien tendre, et il se trouve qu'on s'est arrêté pour faire une petite pause, et je ne sais pas comment il s'est arrangé, il est tombé dans un fossé plein d'orties. Le pauvre, il souffrait comme un martyr. Je l'ai allongé sur la banquette, et nous avons cherché du plantain. Nous avons ramené une bonne poignée de plantain chacun. Je l'ai frotté avec ce plantain. Et bien, miraculeusement, la douleur est partie. Et alors après, d'ailleurs, il m'appelait la sorcière. Bon, ça, c'est une petite anecdote. Voilà, donc, c'est un petit témoignage pour vous dire que réellement, réellement, c'est efficace.
C'est, somme toute, assez facile à utiliser contre ce genre de maux.
Oui, contre, tout à fait, parce qu'il suffit simplement de le froisser entre ses mains pour faire un petit peu sortir le jus hein, de la plante, de frotter un petit peu, pas trop fort bien sûr, et puis de recouvrir éventuellement, si on n'a pas de pansement sous la main, de recouvrir avec d'autres feuilles de n'importe quoi, de chêne, d'arbre, n'importe quoi. Voilà. Et ça, ça nous fait un petit pansement et c'est très 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 efficace. Le soulagement est vraiment quasi instantané. Il y a de nombreux autres témoignages, et pas que le mien, qui ponctuent les écrits anciens, bien sûr, attestant de son aspect incontournable en médecine. Et ce, jusqu'au début du XXe siècle, où elle perdit donc son apparence divine, comme toujours, parce que bah, il y a eu toujours ces médicaments qui sont venus chimiquement remplacer toutes nos plantes dont on se servait beaucoup. Il y a un ancien proverbe d'ailleurs qui dit « On a plus vite fait de chercher du plantain que d'aller chez son médecin ». Cette simple phrase témoigne bien du siècle et des siècles d'emploi. Alors, dans le rôle de l'équilibre écologique, il y a une petite chenille qui est très friande du plantain et en fait qui n'existerait pas si le plantain, lui, n'existait pas. C'est une petite chenille, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, elle est rousse et noire et on la voit bien se promener le long des chemins des fois comme ça, toum, 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 elle ondule là le long du chemin. Et effectivement, cette chenille, elle est la larve, bien sûr, d'un papillon qui s'appelle Lysia Isabella, qui est un papillon de nuit orange, qui est très, très joli. Alors, bien sûr, ben voilà, vous allez me dire, et alors, ça se mange, comme d'habitude, n'est-ce pas? Des petites plantes qu'on n'a pas l'habitude de manger. Ben oui, ça se mange, encore une qui se mange. Alors bon, c'est quand même pas extraordinaire. Hein. Elle se mange bien sûr les feuilles crues, ajoutées aux salades, qui ont un vague goût de champignons, avec une petite pointe d'oseille. Après, en vieillissant, ben, elles sont meilleures cuites, hein, à la manière des épinards. On en faisait aussi des soupes de légumes, des beignets. Mais bon, je ne peux pas vous dire que ce soit affolant au point de vue culinaire. Hein. Bon, moi, je la préfère dans la prairie. Alors, les graines, par contre, sont réduites en farine et ajoutées à la pâte à pain ou à la soupe. Autrefois, on le faisait. Et puis aussi, on peut mettre dans la mangeoire l'hiver quand on nourrit les petits oiseaux. On peut en mettre, ils aiment bien ça. Jusqu'au siècle dernier, les diligences anglaises, c'est une petite anecdote, avaient tout un petit pot permettant de recevoir une touffe de plantain. Cela était censé assurer la sécurité des voyageurs. On l'appelait aussi l'herbe à cinq coutures. Et je vais vous raconter pourquoi. Parce qu'en Haute-Bretagne, un tailleur avait vendu son âme au diable. En contrepartie, le malin devait le combler de richesses et de biens de toutes sortes. C'est courant. Mais au bout de 10 ans, il viendrait prendre possession de son bien, bien sûr. Toutefois, il était stipulé dans le contrat que si le tailleur pouvait lui présenter une couture si fine que ses yeux de diable ne pouvaient la distinguer, il serait quitte et conserverait son âme. Au jour de l'échéance, le tailleur, qui avait peur de perdre son âme et d'être damné, eut recours aux fées, alors nombreuses dans le pays. Elles ont toutes disparu, nos pauvres fées. L'une d'elles alla cueillir quelques herbes, les cousit ensemble avec des points si fins et si menus que Satan ne parvint pas à les découvrir sous les nervures de la feuille qu'on lui présenta. C'est depuis ce temps-là qu'en Bretagne et ailleurs, on appelle le plantain l'herbe aux cinq coutures. Voilà donc pour mon plantain. Alors après tout ça, est-ce que vraiment vous allez continuer à l'appeler mauvaise herbe ?
En nature et moi.
Tu es venue avec un conte qui nous parle du plantain également, Liliane.
Mais oui, comme à chaque fois, je trouve toujours des choses comme ça. Et là, c'est la légende du plantain, effectivement. Nous connaissons tous ces deux plantes communes dans nos contrées. L'une replète, ventrue, boulotte, comme une bonne femme trop grassouillette, aux feuilles arrondies. L'autre, mince, élancée, un peu maigre, comme une demoiselle en peine d'amour. Elles sont là toutes deux au bord des chemins où nous passons, patientes, se tenant souvent l'une près de l'autre. Parfois, elles mettent leurs bijoux, une couronne de petites étamines. Mais personne ne se penche, personne ne les cueille plus. Autrefois, chacun connaissait leur histoire. Et la voici. Il s'agit d'une demoiselle et de sa duègne. Elles vivaient dans un château. Et devant ce château passait une route des plus fréquentées. Parfois, de beaux seigneurs à cheval, ou de riches marchands, des poètes errants ou des chevaliers armés, surpris en chemin par la nuit, demandaient asile. La demoiselle, fort gracieusement, les accueillait, leur offrait un bon repas, et bien des jeunes seigneurs tombèrent amoureux des beaux yeux de la demoiselle. Mais elle, dédaigneuse, secouait la tête. Elle trouvait l'un trop grand, l'autre trop petit. Un troisième avait les yeux bleus, alors que tout juste, la demoiselle aurait préféré des yeux gris. Un quatrième avait le nez trop court. Un cinquième, le nez trop long. Enfin, un jour, on frappe à la porte et un homme entre. Il a les yeux étincelants et la bouche fine, les joues pleines et roses. Et quand il rit, on dirait que 1000 oiseaux se réveillent. « J'aime ta minceur et ta beauté », murmura-t-il à l'oreille de la jeune fille. « J'admire les formes rondes chez les femmes », disait-il à la duègne. Il demanda à passer la nuit au château. Ce que fut ce repas, ce que fut cette soirée. On dansa à la corde dans la cour, on joua aux charades dans la salle, on chanta, on dansa encore, et le soir, le jeune homme déclara son amour à la belle. « Je ne suis point riche, disait-il, mais je t'aimerai de tout mon cœur. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai, disait-elle, pour l'éternité. » Et la duègne ajoutait, « Avec un aussi gentil seigneur ici au château, la vie ne sera qu'un beau songe. » Pourtant, au matin, le gentil seigneur s'attrista et dit, « Il me faut partir pour revenir bientôt. J'irai dans ma ville, chez mon père, lui demander de bénir notre union et me vêtir d'une manière digne de vous. Attendez, criait la duègne, que je garnisse votre sac de voyage de bonne et copieuse nourriture. Voulez-vous donc mourir de faim en chemin ? Et elle lui mit du jambon, si gras que la chair rose était entourée de 10 doigts de graisse onctueuse et blanche. Elle lui mit du saucisson et du pâté, des dragées, des fruits confits. « Oh, assez !» s'exclamait le jeune homme. « Je me nourrirai bien du souvenir de vos beaux yeux. » Il partit, mais ne revint jamais. La belle et la duègne l'attendirent, d'abord à la fenêtre, puis à la tour, puis poussée par la douleur et l'impatience au bord même du chemin. Elles y demeurèrent l'hiver et l'été, le printemps et l'automne, si bien qu'elles y prirent racine. Ainsi naquit, élégant, élancé, le plantain lancéolé auprès de la duègne, devenu le gros plantain à feuilles rondes. Elles resteront plantains, plantées là, jusqu'au jour, évidemment, où le beau chevalier reviendra. Mourut-il ou fut-il infidèle ? Personne ne l'a jamais su. Mais chaque année, les deux plantes qui l'attendent arborent inlassablement leur jolie petite couronne de fleurs.